Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Eno Kitano, il est 18h sur Radio Lutte, l'heure du projet Nemesis. Ce projet, réalisé par le collectif Urgence Sociale et créé en collaboration avec le collectif Geronimo, a pour but de donner la parole à des personnes précaires, souvent invisibilisées et inaudibles. Au travers de Maraude de la Parole, réalisée sur Saint-Nazaire, nous collectons des témoignages de vie, transmettons des situations de détresse urgente ou des souhaits pour l'avenir. Ces portraits sont à retrouver les lundis à 18h sur Radio Lutte et en podcast sur notre page The Changebook. Bonne écoute, bonne soirée. Oui, bonjour, bienvenue pour un nouveau portrait Nemesis. Donc là, c'est le portrait de Jay. Donc Jay, merci d'être là.
De rien, je vous en prie. Tout plaisir pour moi.
Super. D'abord, je vais te laisser te présenter et puis te raconter un petit peu.
Eh bien voilà, moi c'est Jay, voilà, tout simplement. Je suis un breton, on va dire. Je suis né dans une petite ville qui a quand même connu un sacré essor, mais bon, c'est pas la plus grande ville de Bretagne. Mais en tout cas, fier d'être breton, comme on dit. Et ma vie, elle se résume à une mère qui est née en Algérie, qui était portugaise. Mon père était plutôt normand. Donc ça fait un sacré mélange. Finalement, je suis que français, comme disaient les autres. Mais finalement, je me retrouve dans l'idée de dire je suis bien là où je suis et j'aime bien ma petite Bretagne.
Ah bah oui, bah alors la jeunesse était très difficile pour moi, en tout cas au niveau de l'apprentissage, parce que mon père, un catholique endurci et très 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 engagé, donc il était, comme on dirait, un traditionnaliste. Donc j'ai eu une enfant jusqu'à, je veux dire, presque 13 ans. Enfin, à 10 ans, ça commençait à changer, mais bon, jusqu'à 13 ans, je vivais dans un carcan, impossible d'en sortir, parce que si je faisais pas ce qui était demandé, ça ne passait pas. Voilà, donc j'étais obligé de suivre les directives, les ordres. Et donc voilà, je suis passé par cette case-là qui m'a endurci aussi quelque part. Le seul point bénef, c'est que j'ai rencontré la musique pendant ce temps-là grâce à ça. C'est vrai que c'est con à dire, mais une église, ça change tout en fait dans sa vie. Même si j'y crois pas, c'est quand même joli d'entendre des voix qui portent un peu l'esprit. Et cette vie-là, j'ai 13 ans, en fait, elle a fini, parce que j'ai dit j'en ai marre et j'ai préféré partir de moi-même en pension et ne plus jamais vivre dans ce monde catholique qui me sortait un peu par les yeux, quand même, il faut le dire. Parce que j'en avais marre de leur horreur, de tout ce que j'avais lu déjà. Et c'est ça, en fait, l'évolution que j'ai eue dans ma vie. C'est la lecture, c'est beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'à 13 ans, j'ai compris vraiment toutes les grandes demi-mesures et les grandes mesures et les grandes soi-disant solutions qui existaient dans ce monde. Et donc, ça fait mal de prendre ça en pleine gueule et de se dire, les gens, ils se battent pour rien, mais ils arrivent toujours à se battre. Ils ont que ça à faire. Après, on n'y peut rien. Ils y croient, ils y croient. Voilà. Donc cette évolution m'a permis quand même d'arriver à 17 ans, même un peu avant. J'ai fait un peu de mixage, je jouais dans des discothèques, je faisais déjà du service, je travaillais en pisciculture, je faisais du poisson, enfin bref. Déjà à 16 ans, j'étais géré toute cette histoire de ma vie, donc. Et arrivé à une vingtaine d'années, j'avais déjà beaucoup, beaucoup d'à côté, de petits vécus.
Est-ce que tu as des frères et sœurs ?
Oui, j'ai deux frères, donc. Donc deux frères plus âgés, hein, qui est quelqu'un d'assez renfermé, mais qui une bonne vie, on va dire. Il a construit sa vie, il a ce qu'il faut, il a une femme, que je connaissais avant lui d'ailleurs, alors, ce qui est assez étonnant dans mon cas, parce qu'à la finale, je suis quand même 5 ans plus jeune que lui, donc. Voilà, mais bon, j'ai pas trop de relations avec lui. Et donc mon autre frère, lui par contre, c'est un grand mystère dans ma vie, et c'est celui qui m'a fait le plus mal quelque part dans ma vie aussi. Voilà, c'est un peu pour ça aussi qu'à 13 ans, j'ai quitté cette famille, pas totalement, mais en partie. Parce que je pouvais plus vivre avec eux vis-à-vis de ce genre de comportement vis-à-vis de mon frère. Voilà, tout simplement parce que c'était un... un gars qui avait un problème de sexualité, un problème très intérieur. À 24 ans, il était toujours pas donc un homme, comme on pourrait dire, quoi. Et du coup, ça lui posait problème. Et moi, j'ai eu la répercussion de ses actes et ses pensées, surtout. C'était assez ambigu, voilà. Et du coup, bah, j'ai quitté le cocon familial par force, mais c'est moi qui l'ai décidé, bien sûr. Mais voilà, c'était obligé avant que ça finisse en malheur. Donc du coup, moi, j'ai pas beaucoup de famille, en fait. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, ça fait 16 ans, bientôt 17, que je n'ai pas vu ni mon père, ni mes frères, parce que les ponts étaient complètement coupés à partir de mes 24 ans, à peu près. C'était difficile de les revoir sans créer un problème vis-à-vis de mon père qui n'est pas au courant de tout. Et que mon frère me délectait un peu de le regarder. Et puis ben, le grand frère, il fait sa vie, ma foi, que bon, voilà. C'est dommage de perdre une famille. Mais, voilà. Tout le reste de ma famille, du côté mère comme père, de toute façon, sont décédés. Mes grands-parents sont tous décédés, mes grands-tantes, mes cousins, mes. Donc toute mon enfance s'est plus ou moins bien déroulée, même si c'était une enfance un peu bloquée, on va dire. Je ne pouvais pas aller à droite à gauche, hein, ça c'est clair. Hein. Ne pète surtout pas plus haut que ton cul, comme on dit. Donc j'étais un bon élève, tout allait bien. Je veux dire. Et après, ça continue aussi, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que bon, je peux me faire plaisir et puis partir ailleurs. Voilà, surtout que c'était un petit peu difficile de vivre dans des lois et des règles tellement strictes que bah, c'est pas plaisant, quoi, je veux dire. Quand tu vois tous tes amis qui s'amusent, tu te dis, t'as envie de les rejoindre, quoi.
Et
Voilà.
du coup, à quel moment tu as quitté ton père et tes frères? Et enfin, dans quelles conditions? Et qu'est-ce que tu as fait? Parce que du coup, quand tu quittes ta famille, il faut t'assumer matériellement.
Voilà. Bah, du coup, bah, je me suis retrouvé en pension, comme je disais. C'est vrai que le travail, je n'avais pas forcément besoin, mais bon, bah, je trouvais toujours un moyen de faire un business. Alors, moi, je n'ai pas honte de le dire, ouais, j'ai volé dans ma vie, ouais, j'ai volé des jeux de Game Boy, tu vois, par exemple, tu vois, bah, besoin de pognon, voilà, bah, je prends du pognon. Après, bon, bah, le travail en lui-même, il est arrivé vers 16 ans, évidemment. Mais en 3 ans, bah, je ne pouvais pas avoir grand-chose. Si ce n'est que me débrouiller, quelque part. Hein. Donc c'est vrai que je suis passé par cette case-là aussi. Je suis pas un gros voleur, mais bon, voilà. Quand il faut, il faut. Je préfère voler un magasin que me retrouver à rien faire parce que bah, t'as même pas de quoi payer un baby-foot ou un petit billard, quoi. Ou un petit flipper. Parce que bon, bah, t'as le droit de t'amuser aussi, hein, même si t'es pauvre, quoi. Je veux dire. Voilà.
Du coup, tu as quitté ta famille à quel
À
âge?
13 ans, en fait. 13 ans et demi, quoi. 13 ans et demi, c'était déjà régulier. Je rentrais des fois, tous les 3-4 mois, je passais une soirée ou deux à la maison. Mais toute la semaine, j'étais en pension et le week-end, j'allais chez les amis, en fait.
Du coup, t'étais placé,
Ah
suivi
non,
par
j'ai
des...
personne. J'étais moi-même parti, en fait. J'ai pas eu de suivi quelconque. Non, non, c'était à l'amiable, mon père et moi, c'était définitif. Je ne voulais plus être à la maison, point. Voilà.
Et quand tu parles de pension, c'est...
C'était pension véritable, ouais. C'était une école donc privée que mon père a payé, évidemment. Ça. Et puis à 16 ans, bah, même un petit peu avant, j'ai commencé à travailler. Et de là, bon, j'avais plus besoin de faire autre chose que de travailler, faire un peu de pognon. Et puis ça te suffit pour le reste de l'année si tu te démerdes bien, quoi. Si tu sais gérer ton truc et puis que tu fais quelques à côté, évidemment, quoi. Faut savoir investir pour repartir à zéro aussi. C'est long une année. Quand t'es jeune, t'as 17 ans, 16 ans, 17 ans. T'as beau gagner des grosses sommes tout l'été, c'est pas ça qui va te faire vivre l'année, quoi. Donc,
D'accord.
t'es toujours obligé de te démerder à cette époque-là, en tout cas, hein, pour avoir des sous à côté. On peut pas faire autrement.
Et
Et
t'es allé
bon,
jusqu'au
voilà.
bout de ton parcours scolaire?
Et bon, non, je me suis arrêté au bac. Voilà, bac plus nec plus tra, parce que finalement, j'étais pas dans la voie qui m'intéressait véritablement. Je me suis mettre. Pardon, excusez-moi. Je me suis vu mettre des bâtons dans les roues par un professeur de français, qui lui-même étant quand même très haut classé, donc la nationale, c'est. Je suis plus 12e échelon national, je crois, en fait. dans le domaine de l'écriture, donc dans le littéraire. Et moi, c'est ça que je voulais faire, finalement, partir dans cette optique. Et à cause de lui, finalement, je me suis retrouvé en informatique et gestion, ce qui n'était pas plus mal parce que j'aimais bien l'informatique, mais en fait, finalement, c'est la gestion que j'aimais pas. Donc, du coup, j'ai fait de l'économie, du droit, tout ça. Ça me pesait plus ou moins, mais c'était pas ma vocation. Je veux dire, je ne voyais pas ce que j'allais faire plus tard. Donc, le BTS, je me suis dit, ça sert à rien que je le fasse. Surtout quand tu voyais les débouchés à cette époque-là, tu avais beau faire 2 ans de BTS, tu trouvais pareil, du travail comme si tu avais passé un bac. En fait, c'est 2 ans inutiles, en fait. Voilà. C'est ignoble de le dire, mais c'est vrai qu'on bossait pour rien. Merci à l'éducation nationale, à cette époque-là, c'était vraiment encore plus heureux que maintenant. Voilà.
Après ton bac, du coup, t'as... avant de justement te retrouver à la rue, est-ce que tu as travaillé? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quelle vie t'as eu?
Bah jusqu'à 21 ans, donc de 16 ans à 21 ans, suivant donc même 15 ans, parce que j'ai commencé, on va dire, illégalement à travailler dans une pisciculture pendant 3 semaines. Et de là, bah, j'ai pris le goût au travail, donc du coup, j'ai travaillé jusqu'à mes 21 ans. Pas tout le temps, périodiquement, hein, mais donc différents métiers, comme voilà, la gestion de stock, la pisciculture, donc l'ostréiculture, enfin, et d'autres encore métiers de la bouche. Voilà. Le travail, ça me plaisait bien. Puis à 21 ans, bah, j'avais pas mal de pognon, on peut le dire, hein. Donc du coup, bah, je suis parti en vacances, très longues vacances, voilà. Du coup, j'ai pas bossé pendant presque 1 an et demi, 2 ans, et ça m'allait très bien. Voilà, j'étais content, je menais ma life, j'avais ce qu'il fallait. Et c'est là que je commençais à ne plus avoir envie de voir la retraite arriver, de se dire de toute façon ça sert à rien. Puis c'est vrai que finalement, même en ayant commencé tôt comme moi, l'espoir d'avoir une retraite, elle est... Waouh. Elle est ridicule presque. Quand je vois tellement d'exemples à ce moment-là, dans ma vie, je connais des gens qui en arrivent là à toucher des malheureux francs, parce qu'on parle de francs encore à mon époque. Des malheureux francs pour une retraite alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et c'est vrai que ça me démotive d'un coup. C'est vrai que tu te dis, mais merde, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir ça là. Et puis voir ma déchéance en l'espace de 10 ans, au revoir.
Et du coup, tu as pris une décision.
Donc j'ai pris la décision de ne plus travailler et de partir à la rue. Voilà. À peu près 21 ans. C'est là-bas, dans le pays où j'ai été, il y avait beaucoup de gens comme moi qui en avaient un peu marre de travailler, qui se mettaient un peu à l'écart. Et ces gens-là, je les ai connus. On a discuté, on a travaillé ensemble, dans le fait de pouvoir survivre sans être obligé d'en faire des masses, quoi. Et d'être obligé de travailler surtout. Voilà. Travailler physiquement pour un patron. Hein. Ça, c'est hors de question. Alors, toutes ces personnes-là m'ont montré le chemin, on va dire, même si je le connaissais plus ou moins, mais je l'ai vraiment pris en tête de proue, quoi. Voilà, maintenant c'est ma liberté, je veux que les gens y soient bien, qu'en fait, moi, tout ce que je sais, je vais pouvoir le montrer aussi. Et donc, j'ai commencé à peu près à cette période-là. C'est pour ça que je dirais que ça fait plus de 20 ans que, ouais, voilà, je connais la rue comme il faut, j'étais à droite, à gauche, au milieu. Et je sais ce que les gens font et ce que les gens, quand ils arrivent dans la rue, ils ont besoin de juste le logement déjà premièrement, et puis après ça peut aboutir, je veux dire, à quelque chose, quoi.
Mmh. Donc t'as suivi un petit peu, en fait, t'as rencontré des gens qui étaient déjà dans des situations comme ça.
On a rencontré énormément, oui.
Ouais. Et du coup, c'est une vie qui t'a intéressé. Et que tu as décidé à un moment donné, tu t'es dit, c'est quelque chose qui me convient.
Exactement. Mais là, donc, ça fait depuis, je veux dire, depuis 2009, que c'est plus qu'une vocation, quoi. Je veux dire, en 11 ans, c'est énorme tout ce que j'avais pu ouvrir, quoi. Bref.
Et du coup, là, quand tu me parles, justement, ouverture, tu parles de squat. Donc, dès que tu te retrouves comme ça, dès que tu décides d'adopter ce mode de vie-là, c'est avec des personnes avec qui tu t'organises et avec qui tu décides d'ouvrir des squats pour vivre ensemble. Comment ça se passe?
C'est pas exactement dans ce sens-là que ça s'est passé pour moi, en tout cas. C'est que j'ai appris à reconnaître les maisons, à savoir marcher la nuit, les reconnaître, savoir les ouvrir moi-même d'abord, et d'organiser la chose, et être sûr et certain qu'en fait, je connaisse et le propriétaire, et l'état, et pourquoi, et qui c'est que je vais gêner ou pas, parce que c'est pas n'importe quoi, tu peux pas ouvrir n'importe quel bâtiment et dire c'est chez moi. Il faut que ce soit réfléchi, que le propriétaire soit d'accord ou que l'État n'ait rien à dire surtout. Parce que quand tu vois certains trucs que j'ai ouverts, c'était pas non plus des jolis lieux. Bon, voilà. Après, maintenant, tu ouvres une maison qui est superbe et puis qu'on te dit c'était bienvenu. Moi, ça m'est arrivé énormément de fois dans ma vie. Voilà. Pas plus tard qu'un cinéma, le grand cinéma en fait qui est en face de la Poste de Saint-Nazaire, et ben, figure-toi, 8 880 mètres carrés, monsieur Molière. M'a dit, vous pouvez rester tant que les travaux commencent. Et on est resté pendant 2 ans, on était des fois une trentaine à pouvoir vivre dans ce lieu, et il y en a plein qui ont trouvé des solutions grâce à ça. Et j'en passerai des meilleurs. Évidemment, c'est juste un endroit. Il y en a une centaine et beaucoup plus que ça, même d'autres derrière. En l'espace de 11, voilà, de 11 ans, ça s'est un peu réduit. Et surtout depuis 3 ans. Là, depuis 3 ans, c'est donc l'hécatombe. On ne peut plus en trouver. Mais auparavant, on en trouvait beaucoup. Et c'était viable. On n'avait pas l'électricité et l'eau tout le temps, mais au moins, on avait peut-être une cheminée. Enfin, il y a toujours un petit truc attrayant où tu déranges personne et que les gens tombaient d'accord. Maintenant, les propriétaires, même s'ils le voulaient, ils ne peuvent plus. Avec leur loi Elan, etc., etc., etc. On ne peut rien y faire. Voilà.
C'est-à-dire que si des
Et que les.
propriétaires souhaitent laisser
Ils pourraient même pas.
l'usage,
Ils
ils
pourraient même
pourraient
pas
pas
en
laisser
fait.
l'usage.
Sauf s'ils mettent un bail. Enfin bref. Mais il faut que ça soit légalisé, quoi. Sinon, ils ne peuvent pas laisser quelqu'un. Oh, belle histoire. C'est bon. Bref, c'est pire que pire. Et comme je vous disais tout à l'heure, les barbelés, maintenant, bon, on arrive où quand même. Bon, le béton, on connaissait. Les agglos, ça fait longtemps ça, mais bon. Maintenant, les planches de bois avec des vis, ouais, ok, mais là, maintenant, des plaques de ferraille, du barbelé. Bon, la prochaine fois, ce sera quoi? Des mines antipersonnelles, et puis, voilà. Bon, on va arriver où? Je sais pas.
Parce que tu dis que j'ai du coup c'est un choix, ça c'est un choix de ma de vie que j'ai faite. C'est quoi du coup cette idéologie que tu as du coup de ne pas avoir de logement, de ne pas travailler et du coup d'ouvrir des squats? Parce que souvent on entend parler des squats, des personnes qui les ouvrent, mais il y a beaucoup de choses, les gens ont des représentations. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu si il y a une idéologie, une philosophie derrière?
Bon, alors effectivement, généralement, tu ne lui dis pas que tu es un ouvreur de squat. Voilà. C'est le principe. Parce que je peux te dire que toute la police de Saint-Nazaire, c'est là que je suis ouvreur des squats, mais ils n'ont jamais pu le prouver. Ouais, c'est ça l'essentiel aussi, surtout. Voilà. Alors pourquoi je suis venu là, à ouvrir des logements Bah écoute, simplement, quand j'étais dans le pays, où j'étais donc en vacances après, de 21 ans jusqu'à 22 ans et des poussières. C'était tout simplement toute une équipe de punk, d'anarchistes, des gens de tous les bords que j'ai rencontrés. Et qui, moi, quand je suis parti là-bas, hein, je voulais peut-être bosser un petit peu, bon, même si j'avais des sous, mais je me suis dit, je vais peut-être trouver un truc et je vais m'installer. Finalement, j'ai passé 1 an et demi juste à être bien, avec des gens justement dans un immense squat. Voilà, le Black House, voilà, le cheval noir. Qui est juste gigantesque. En fait, il y a tellement de gens qu'on ne peut pas les compter. C'est des milliers de gens qui viennent des fois. Bref, il y a des concerts, il y a plein de choses. Donc c'est génial. Et là, tu apprends ce que c'est. Et bah, quand je suis rentré en France, bah, je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est pas con, ouvrir une maison. Puis voilà, quand il y a quelqu'un qui a besoin de toi, bah, tiens, bah, viens à la maison. Ne reste pas de dormir dehors, quoi, je veux dire, viens. Et voilà, mais ça a toujours été comme ça pour moi. Un squat n'est jamais fermé à l'origine pour moi. Bon, maintenant, l'heure d'aujourd'hui, ah, on est bien d'accord. Il faut mettre des verrous, parce que si tu ne mets pas des verrous, l'État, en fait, il vient te casser les couilles. Alors qu'avant, tu n'as pas besoin de mettre de verrous, tu n'as pas besoin de. Voilà, rien. Les gens, ils rentrent, ils sortent, c'est. Voilà. Bon, évidemment, comme partout, comme quand c'est ouvert, ben, il y a des problèmes, mais écoute, à chacun de gérer son histoire. Tout simplement. J'ai vu à Toulouse des coins où ça allait pire que pire. Hein. Bon, bah, ma foi, quand tu vois quelque chose qui se passe, soit tu défends, soit tu te barres. C'est simple. Hein. C'est à toi de chercher ta propre raison. Voilà.
Et du coup, aujourd'hui, tu vis sur Saint-Nazaire.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé à Saint-Nazaire et sur les plusieurs années, parce que je sais que tu as vécu plusieurs années, ce qui s'est passé justement, est-ce que en termes d'ouverture de squat, de politique de la ville, de rapport avec la police, tout ça?
Ouais, écoute, je suis arrivé à cause de ma femme qui avait son père malade d'un cancer de la gorge. Bon, je n'étais pas marié, hein. C'est ma concubine, quoi. Bref. Donc, avec qui je suis resté que quelques années, mais bon, on a failli construire quelque chose qui est parti en vrille. Moi, je l'accompagnais de Toulouse jusqu'ici à Saint-Nazaire parce que son père était malade, donc, tout simplement. Ici, j'ai trouvé une bonne place. Saint-Nazaire, je connaissais vite fait. Mais bon, c'était pas forcément là que j'avais envie de m'installer. Et puis finalement, j'ai appris à aimer cette ville assez rapidement. Et j'ai travaillé au chantier de l'Atlantique, j'ai fait pas mal de petites choses. J'étais gardien de nuit, d'ailleurs, c'était sympa. Donc, je commençais à m'intégrer. Et puis voilà, bon, malheureusement, elle m'a quitté, cette femme partie ailleurs, avec un autre gars qu'elle connaissait depuis l'enfance aussi. C'est pas grave, les histoires d'amour, c'est comme ça. Et c'est vrai que Saint-Nazaire, ça m'a plu. Du coup, depuis assez longtemps, je suis ici et je compte bien y rester. Voilà, parce que j'ai trouvé pas mal de solutions. J'ai perdu beaucoup de mes amis, mais ils étaient là encore, mais ils sont. Voilà, enfin bref. Je veux dire, ça va, ça vient. Je m'en fais de nouveau. C'est une ville assez ouverte, donc c'est plaisant de vivre ici et de rencontrer plein de gens différents. Voilà.
T'as participé à des ouvertures ici, t'as vécu avec.
Plus d'une centaine. Et oui, une centaine, c'est vraiment en minimum, hein, parce qu'évidemment, il y a un peu plus. Mais en fait, si tu veux, il y a certains hivers où j'ai ouvert 15. Mais sur les 15, il n'y en a que 3 qui ont été exploités, en fait, à la finale. C'est-à-dire que les 13 autres, ça servait pour l'année d'après ou les 2 ans après. Voilà. Certains bâtiments, je les ai connus, ça faisait juste que 2 ans qu'ils étaient abandonnés. Mais en fait, je les ai occupés 8 ans après, quoi. Juste à la 10e année, quoi, en gros, quoi. Juste avant que ça se fasse racheter. Puis ça a duré 6 mois. Voilà. C'est pas facile d'ouvrir un squat pendant plus de 6 ans quand même. C'est assez rare. Mais ça m'est arrivé aussi. Voilà. D'ailleurs, l'ancienne MDP, donc la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, la deuxième du nom, donc qui était au niveau du théâtre de Saint-Nazaire, j'ai habité là-bas, dans le grenier. En fait, il y avait une terrasse, on voyait la base sous-marine, on voyait même le pont de Saint-Nazaire, on voyait l'océan. Pendant plus de 6 ans, c'était un pote à moi qui l'avait ouvert. Et sur 6 ans, ça a été squatté au fur et à mesure. Jusqu'à temps qu'on ait les 4 appartements du haut. Et ensuite, ça a été fermé par le propriétaire même qui a fait des travaux. Et ça a été rouvert par la MDP une fois que ça a été racheté par l'État. Parce que d'ailleurs, c'était invendable plus ou moins vu la vétusté en fait, des sous-sols. C'est pour ça que personne ne voulait de cet achat. Voilà.
Il y a une question du coup qui m'intéresse, c'est du coup toi t'es jamais passé par l'hébergement d'urgence, par des structures type foyer?
Si, en 2003, je suis passé par le foyer de Banqui. Je suis resté pendant 3 mois d'hiver, à peu près. Et bon, c'est vrai que c'était pas facile d'y vivre, mais à cette époque-là, je n'avais pas d'animaux, donc quelque part, ça ne me gênait pas de rester dans cet endroit-là. Mais quand on voit la qualité de l'hébergement aujourd'hui par rapport en 2003, 2003 c'était vraiment des pioles de merde, excusez-moi, mais pire. C'était des petites cages à poules, avec pas grand-chose, et voilà, c'était crado. Il y avait des gens qui étaient vraiment assez particuliers, on va dire, dedans. Donc c'était pas très très agréable en fait d'être dans ce foyer-là. Et il y avait le foyer Vent d'Ouest. Et le foyer Vent d'Ouest, c'était encore pire. C'était vraiment ignoble parce que c'était vraiment que pour une soirée. Voilà, c'est du jour au lendemain un peu. Voilà. Parce que le foyer Banqui, c'est au mois, tu payes ton mois et tu restes. Là, tu te fais virer du jour au lendemain, tu sais pas. Et il y a tout et rien là-dedans. Parce que c'était pire que je veux dire le pire des squats que j'ai jamais connu, quoi. C'est pas une question de propreté, c'est juste une question d'ambiance, quoi. C'est impossible, quoi. Je préfère vivre avec 2-3 personnes qui, des fois, peuvent être impliquables, que de vivre avec une dizaine de personnes qui ne parlent pas ou qui parlent trop, ou justement, enfin, ou c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, ils se disent on se verra pas demain, donc c'est pas grave. C'est que quand tu fais un truc, un squat, là, c'est un jour et la suite. Voilà. Forcément. Quand tu t'engages une fois, c'est tout le temps. C'est pas salut et au revoir. Non, non, ça n'existera pas, ça. Enfin, pour moi, en tout cas. Depuis que j'ai ouvert des squats, tu rentres chez moi, il n'y a pas de problème. Enfin, tu rentres chez nous, mais par contre, tu ne fais pas de Trafalgar. Tu rentres pas ailleurs sans nous le dire, etc., etc. Ouais. C'est pas le moulin non plus. Voilà.
Et je me posais la question aussi, quels sont tes rapports justement aussi au niveau des associations d'aide sociale, d'action sociale sur Saint-Nazaire? Est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'ont apporté de l'aide, qui t'ont développé des liens aussi
Oui, ces dernières années, j'ai développé des liens avec certains travailleurs sociaux et certaines assistantes sociales très gentilles, en fait, finalement. Enfin, très compréhensibles. Bah, elles ont compris ce que je vivais, donc elles me soutiennent, et là-dessus, je ne peux pas dire le contraire. Mais auparavant, je connais des gens dans le circuit, je veux dire, depuis tellement d'années, qui sont même à la retraite maintenant. Bon. Oui, j'ai eu affaire à beaucoup d'organismes sociaux, hein, soit que pour les soins ou autre suivi aussi, ça m'est arrivé, hein, d'avoir des problèmes avec la justice. Donc les TIG, bah, il fallait que je voie quelqu'un par rapport à une addiction quelconque. Bon, ma foi, ça n'a pas duré très longtemps. Je vais rarement dans les trucs sociaux, je veux dire. Même si je touche le RSA. Ça, par contre, je ne peux pas le nier. Ça, c'est sûr qu'à part ça, j'ai pas vraiment envie d'avoir affaire avec la CPAM et le CCAS. C'est tout, ça me suffit, quoi. J'ai pas envie d'aller partout, faire du social, etc. Moi, le social, c'est moi qui le crée, en fait. C'est ça que je veux dire, quoi. Moi, quand je vois toute la maraude que je connais très bien, et depuis qu'ils sont arrivés, de toute façon, avant, ils étaient médiateurs, même certains. Tous ces gens-là, je les connais depuis qu'ils sont arrivés dans leur carrière quasiment là, ici sur Saint-Nazaire. Ça fait quand même 18 ans, presque 19 ans que je suis là maintenant. Évidemment, ça commence à peser. Voilà. Je connais les médecins, je connais les psychologues, je connais les. Voilà. Voilà. C'est rare que je ne connaisse pas quelqu'un, on va dire. Voilà, dans ce domaine-là. Ouais.
Bah, du coup, ça me fait penser à une autre question, c'est. Le nombre de personnes à la rue sur Saint-Nazaire, toi du coup tu dois enfin et surtout les personnes aussi, enfin tu dois les connaître. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'état dans lequel il est et si ce qui se passe dans la rue actuellement, si ça se passe bien aussi avec
Mon
la
pays
pandémie?
va mal, mon pays va mal. Comme dirait Tikenja, franchement, c'est vrai, bah écoute, ça va mal en pis, quoi. Là, ce qu'ils ont fait de bloquer tout ça là, depuis 3 ans, c'est arrivé que y a trop de gens qui se retrouvent vraiment à être obligés soit de partir de Saint-Nazaire, ou même d'ailleurs, hein, de toute façon, de quitter leur coin parce que ils peuvent pas loger, quoi. Et puis, ou sinon, finir en tente. Voilà, c'est tout. Parce qu'il n'y a plus de logement, il n'y a plus rien. C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est l'incapacité des municipaux de laisser un endroit où bah, les gens pourraient juste s'entendre, comme ici même, donc à la maison, puis l'urgence, voilà, le collectif, je veux dire, la maison d'hébergement, c'est du social, et ça, ils n'en font pas, en fait, à Saint-Nazaire depuis des années, c'est même pire, c'est qu'ils désocialisent, en fait, totalement les gens et de la rue qui sont dans la rue depuis longtemps, et les gens qui arrive à la rue parce que là, il y a le confinement, parce que là, il y a le chômage, il y a toute cette précarité qui est en train de flamber à droite à gauche. Et là, ils sont juste au début du problème et ils veulent toujours pas comprendre que d'ici quelques mois, ça va être encore pire et même multiplié ou surmultiplié. Donc, et tant qu'ils ouvrent les yeux, malheureusement, ils le font pas. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Bah, il est peut-être temps de se réveiller, messieurs, mais carrément, mais réveillez-vous, comme disait aussi Franck. Bah, c'est la même, hein. Bon, voilà.
Du coup, bah, t'es arrivé à ton présent. Donc tu vis ici, là où on est en train d'enregistrer. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ta vie actuelle, comment elle s'organise, ce qui s'y passe?
La vie actuelle, j'ai l'impression de prendre ma retraite. C'est bizarre parce qu'en fait, pour une fois, enfin pas une fois, pas pour l'unique fois, mais c'est vrai que ça arrivait rarement, en fait, finalement, que j'habite chez quelqu'un, quoi, comme on dit. Et là, c'est pas moi qui ai créé toute cette histoire, qui est fabuleuse, finalement. Donc, je me retrouve invité au début et je me situe donc dans ces maisons comme quelqu'un qui est. Je me sens privilégié de pouvoir profiter pour une fois d'un endroit où c'est pas moi qui est ouvert, où j'ai pas de risque derrière. Je m'en fous, je suis bien avec tout le monde, ça s'entend bien. Et puis, c'est ça, quoi. C'est d'être à l'aise et pouvoir avancer dans mon petit chemin. Parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de projets professionnels. J'ai pas une santé de fer, comme on dit. Bon, après, le professionnalisme, on s'en fout, hein. Je peux faire quelque chose de passionné en attendant, hein. Tout ça me dérangera pas. Ça fait longtemps que ça dure, donc voilà. Et c'est pour ça que je suis bien content d'être toujours dans le même cursus, mais de l'autre côté, quelque part, en fait. Voilà.
Petite dernière question justement sur... tu as commencé à évoquer ton avenir. Enfin, toi, tu as peut-être des envies, des souhaits pour l'avenir. Comment tu te vois dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être encore plus tard? Qu'est-ce que tu veux pour toi?
Moi, j'ai envie que ce que j'ai commencé passionnellement, c'est-à-dire la musique, les textes et tout ça. Et bon, c'est vrai que le confinement, on est bien d'accord pour l'instant, ça met vraiment des gros bâtons dans les roues. Et puis déjà, c'est difficile à l'heure qu'il est de pouvoir se faire plaisir dans ce domaine-là. Donc, j'aimerais bien que ça revienne, tu vois, et que je puisse en profiter et en participer. Parce que c'est vrai que si j'ai quand même un petit projet. C'est de beaucoup chanter dans des chorales, enfin, de prendre n'importe quel partage, tu vois, un collectif de percussion ou je ne sais quoi encore. C'est-à-dire de profiter comme avant parce que ça, c'est mort et ça, j'en ai ras, excusez-moi, le fion de me retrouver à me dire je peux pas aller sur la plage jouer du djembé parce que les flics ils vont m'embarquer mon djembé à 10 h du soir, quoi. Alors qu'en fait, avant, on s'amusait jusqu'à 4 h du matin et personne venait nous enquiquiner. Donc c'est là que vous devrez retrouver ça en fait. Mais c'est peut-être utopique. Mais voilà. C'est mon projet. Bon
Ça
sur ce,
va, mon
ça fait
projet.
très bien, ça fait
Je
une bonne petite heure que nous discutons. Merci pour Radio Lutte en tout cas. De nous
merci
avoir
à toi,
reçus.
Jay, de vous avoir donné du temps.
Merci beaucoup, messieurs.
Voilà, super. On va rendre l'antenne et tout, la suite. Voilà. Merci beaucoup. Salut.
Salut!